c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Je vous souhaite très simple, malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, preneurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
On n'a pas mentionné les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la Delphine, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bienvenue à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, dans la chronique Résistance, on vous parle d'un quartier de Vancouver et de la pauvreté des Premières Nations. C'est une chronique préparée par Nicolas. On vous parlera du sommet contre la guerre et la militarisation organisé par Échec à la guerre et beaucoup de groupes en fin de semaine. Également, le gala des apatrides anonymes. On vous parlera de la nouvelle politique économique de Cuba récemment annoncée avec Antoine Casgrain depuis le Cône Sud. Et évidemment, à la fin de l'émission, l'anti-hebdo à ne pas manquer pour savoir quoi faire si, comme nous, vous n'avez pas envie de regarder la télé. Restez avec nous.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors ce matin, on va avoir une entrevue avec Christian qui revient du quartier de East Hastings, un quartier qui est réellement défavorisé dans le coin de Vancouver. Christian, bonjour.
Ben,
c'est ça. Pour commencer, ce que je voulais savoir, en fait, c'est si tu peux nous faire, premièrement, un portrait rapide, en fait, de ce qu'est le quartier. C'est quoi les conditions économiques, en général, du quartier de East Hastings à Vancouver?
Ben, East Hastings est connu comme un des quartiers les plus pauvres du Canada. Probablement le quartier le plus pauvre dans la ville, en dehors des réserves.
Puis la situation...
Sinon, il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent là-bas. Disons que la population est quand même assez visible. Puis okay. C'est des gens souvent qui ont été déplacés de leur terre, qui se retrouvent dans la ville, concentrés, dans une place où les drug dealers, puis le marché de la prostitution domine.
OK. Mais pour nous mettre un peu en situation, quand on est à Vancouver et puis qu'on rentre dans le quartier d'East Hastings, qu'est-ce qu'on va observer?
Ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, comme un peu partout, il y a des trottoirs et des rues, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vivent sur les trottoirs, autour des différents endroits publics. On observe de plus en plus à Vancouver, en général, que la ville monte en haut, c'est-à-dire qu'il y a des immenses buildings qui sont construits, de condominiums, ce qui amène aussi au déplacement des populations urbaines.
Puis c'est ça, par rapport à ça, dans le quartier de East Hastings, en fait, on peut observer qu'il y a énormément de Premières Nations qui se retrouvent dans ce coin-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent dans ce quartier-là?
Ben, il y a différentes raisons, mais le quartier de Downtown East Side, c'est probablement un des quartiers où les loyers sont quand même moins cher qu'ailleurs, même si les prix sont vraiment, vraiment, vraiment intenses, là. Vancouver, c'est probablement un des endroits au Canada où les loyers sont les plus chers. Ça veut pas dire nécessairement les gens sont plus riches. Au contraire, dans Downtown East Side, les gens sont relativement pauvres. Beaucoup de gens vivent sur l'aide sociale, ou des fois même en bas de l'aide sociale quand ils n'ont pas de chèque.
Puis
du coup, ici, il y a peu de logements sociaux. Puis comme je disais, avec les condominiums qui se pointent, ben, il y en a encore moins qu'il y en avait. Les Olympiques là-dedans ont joué un gros prépondérant pour accélérer le processus de gentrification dans le quartier. Du coup, c'est encore pire. Puis le flicage s'est intensifié, les caméras de surveillance.
Par rapport à ça, c'est...
Au lieu de... que les gens puissent trouver des solutions pour s'entraider, pour s'auto-organiser, pour trouver des solutions à leurs problèmes ensemble. Bon, ils sont à la fois fliqués par la police de Vancouver, ils sont fliqués par l'État de la Colombie-Britannique, par la ville de Vancouver. Ils sont aussi fliqués de gauche. C'est-à-dire qu'ils reçoivent aussi beaucoup... Il y a le contrôle social exercé par les organismes communautaires qui est vraiment intense là-bas. Puis qui souvent, au lieu de réellement encourager les gens à lutter sur leur propre base, vont amener plus de contrôle social, plus de dépendance vis-à-vis des organismes, des solutions qui vont dire qu'ils veulent négocier avec le gouvernement, mais le gouvernement a montré plus d'une fois qu'il n'y avait pas de volonté de faire des choses vraiment positives pour les populations les plus défavorisées là-bas, particulièrement autochtones. Du coup, entretenir ce mythe. Aussi, ils disent, dans un des derniers rapports du Carnegie Action Project, qui est comme un groupe important là-bas, ils disent, on devrait intégrer des citoyens et des citoyennes à l'intérieur de la police communautaire. Alors, en tout cas, c'est comme essayer d'aménager le territoire avec encore plus de contrôle social, puis même avec cette espèce de légitimité que ça serait positif pour les gens. Mais non seulement ça n'arrivera pas, et à quelque part, c'est tant mieux si ça n'arrive pas, mais je veux dire, c'est aberrant de penser que après tout ce temps-là, le gouvernement a une réelle volonté de faire quelque chose dans le Downtown East Side. Du coup, les populations ne peuvent que se révolter devant leurs conditions vraiment atroces dans lesquelles ils sont poignés tous les jours.
Mais par rapport à ça, est-ce qu'ils réussissent à s'organiser un peu ou... Allô?
Ouais.
Est-ce que justement la population est capable de s'organiser pour un peu contrecarrer l'oppression qu'ils reçoivent depuis l'État?
Ouais, il se trouve qu'à Vancouver, entre autres, c'est la gentrification, puis il y a un manque de loyers, puis tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'immeubles vides. Du coup, le lien en fait entre des populations sur le trottoir puis des immeubles, c'est fait à faire. Il y a des gens qui font des occupations. D'ailleurs, il y en a qui le font de manière plus ou moins temporaire, mais ils pourraient faire des occupations qui dureraient beaucoup plus longtemps, mieux structurées, mieux organisées par des gens au lieu d'essayer de les asservir aux volontés des organismes communautaires. Les organismes communautaires les servaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils se réappropriaient les ressources pour les mettre à leur service, qui, eux, s'organiseraient. Ça serait déjà vraiment différent.
Puis, justement...
Donc, le système dans son ensemble joue contre les plus défavorisés d'une manière générale. Alors, c'est juste un exemple encore plus évident, plus visible, qui se passe dans ton école.
Exact. Puis par rapport à ce quartier, justement, on observe qu'il y a plus de Premières Nations qu'il y en a dans d'autres quartiers. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, quel facteur fait que les Premières Nations se retrouvent, en fait, dans ce coin-là? Puis c'est quoi un peu les liens avec la colonisation qui continue même de nos jours?
Ben, il y a un lien direct, là. Je veux dire, le fait que les populations sont déplacées puis se retrouvent dans la concentration urbaine qu'elles ont dans Tonicède, puis que du coup on a brisé la psychologie qui les unit à leur territoire, qui fait en sorte souvent qu'on les aliène encore plus qu'ils puissent l'être par la colonisation à la base, ben ça fait en sorte que les problèmes psychologiques et sociaux dans les communautés autochtones qui se retrouvent là-bas sont vraiment super intenses. Du coup, ça favorise grandement et la prostitution et la drogue. Et puis, aussi, le fait que les gens se détruisent. Mais donc, on va dire, après ça, on va dire, ah ben regardez, ils se détruisent, ils sont caves, c'est leur problème. Comme on dit ici aussi, je veux dire, partout au Canada, il y a des gens, j'entends quasiment quotidiennement, des gens dire, ah oui, regardez, les Autochtones, ils savent pas quoi faire de leur peau, ils se font juste s'auto-mutiler, mais... Puis ils sont aucunement conscients de comment le processus de destruction causé par la colonisation est super intense. Puis comment ce processus-là, s'il n'est pas combattu dans son ensemble, ben ça va juste se perpétuer. Ça va créer des ghettos pauvres, comme le Downtown Eastside, mais aussi comme les réserves. Parce que j'ai regardé hier, sur une échelle statistique, les endroits les plus pauvres au Canada, puis la plupart sont des Premières Nations. Ben, je veux dire, c'est pas étonnant, t'as pas tant besoin de regarder les statistiques pour ça, mais là, ça fait juste qu'on l'a confirmé, même d'un point de vue sociologique, que le résultat de la colonisation, ben, ça se vit super intensément un peu partout au Canada, puis dans le Downtown Eastside, c'est comme particulièrement le cas, parce que ils sont pauvres, donc ils se retrouvent là où les logements sont les moins chers, où ils ont une communauté, parce que si c'est la force du Downtown Eastside, malgré tout, c'est que ça unit les pauvres, au lieu d'être tous disséminés à droite, à gauche, puis à droite, on se retrouve dans un même ghetto. Ça donne une force à ce ghetto-là. Par contre, comme j'ai dit, tous les problèmes magistraux qui sont là sont vraiment intenses. Puis, pour moi, c'est important de saisir ça comme une guerre que le gouvernement il fait subir à sa population. On va souvent dire la guerre est en Irak, la guerre est en Afghanistan, il faut condamner ça. Mais la guerre n'est pas juste en Afghanistan et en Irak, elle est partout. Puis, de toute façon, non seulement les intérêts ici existent pour faire exister la guerre en Irak et en Afghanistan, mais la guerre, elle existe au Canada. C'est une guerre perpétuelle qu'on fait subir aux populations les plus défavorisées, aux Autochtones, aux femmes. Puis on a, là-dedans, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser pour construire notre propre camp. Parce que sinon, on se fait juste se faire détruire, comme c'est le cas. Puis on voit aussi la complicité de la gauche à Vancouver qui offre des solutions qui vont nulle part et qui font juste perpétuer le problème, en fait.
Ben Christian, un gros merci pour cette entrevue ce matin qui nous explique un peu comment fonctionne la situation dans le ghetto de East Hastings et puis justement l'ethnocide qui continue en permanence par rapport aux Premières Nations au Canada à cause d'un supposé développement économique. Alors, ben je te remercie beaucoup puis on se reparle bientôt.
Oui, ok. Ben, à bientôt.
Bonne journée.
représente ma nation, ma culture, ma passion, ma raison de vivre, mes origines, ma fierté, ma zone grise. Faut pas oublier que je viens d'Abitibi, sur une terre algonquine. On m'a appris la vie avec mes joies et mes peines, ma rage, ma haine, tout ce qu'a joué contre moi-même, devenu la cause de mes problèmes et la crise d'Oka. Rien à voir avec mon corps, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre mon droit. Je suis de la voix de mes ancêtres et de la voix de mon peuple. Une langue en voie d'extinction, je veux rebâtir la nation, car je représente ma nation, bref, ma génération, mon peuple, mes ancêtres. Y'a pas mille façons d'être, je suis ce que je suis, puis je suis fier de l'être. Et je suis le premier de ce monde à apprendre à me connaître. Jugé par nos paroles, j'ai pas choisi les paraboles. J'aime mieux dire les vraies choses qui font de moi un porte-parole. On dit que c'est la vie, fuck that. L'injustice qui t'instruit, mais dans le fond, ça te détruit. On dirait que je peux encore attendre les hurlements et qu'on parle de mon histoire. Je trouve ça dégoûtant, mais dire que c'était nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. On a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. Quand je vois que dans ma réserve ça tourne mal, j'essaie de changer le monde avec mes cordes vocales. Déconscientiser, d'arrêter d'ignorer. On fait partie de l'histoire, mais l'histoire est loin d'être terminée. Mettre dans les réserves, ça veut dire mettre de côté. Mais mon opinion, les derniers seront les premiers. Je suis un militant, j'ai beau me battre pour ma cause, on n'en mérite pas tant. Regarde ailleurs, c'est la même chose. En Afrique, les peuples blancs qui contrôlent, ils ont débarqué avec des bébés, puis ils ont volé les terres. Ils ont fait la même chose ici, pense vraiment que je vais me taire. Ceux qui pensent le contraire, ils se mêlent pas leurs affaires. On est mis à part et le gouvernement a fait savoir. Dur d'admettre c'est le tort, mais je vais vous le faire savoir. C'est bon savoir la vérité en tant qu'Amérindien. Je trouve qu'on n'a pas mérité nos espaces restreints. On dit que c'est la vie, fuck that. L'injustice qui t'instruit, mais dans le fond ça te détruit. On dirait que je peux encore attendre les hurlements et qu'on parle de mon histoire. Je trouve ça dégoûtant, mais dire que c'est nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. On a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. La loi sur les Indiens a obligé les pensionnats. Ma famille a pensé là, puis ont passé l'âge d'en parler. Renfermés sans clé de l'intérieur qui ont créé. Trop de violeurs d'enfants, trop large pour s'excuser. Pas qu'il envoie de l'argent de l'ordre.
C'était la chanson Injustice du groupe Anishinaabe Samian, un groupe rap qui vient d'ici, d'une région du Québec. Alors, on est encore à CKUT 102.3 FM à l'émission En bas à gauche.
Alors, une blague spéciale pour les gens du building, c'est parce que t'as entendu parler Christian qui est à CKUT. Fait que vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. Et donc, je vais vous parler, je vais vous introduire une entrevue qu'on a faite hier avec Maude Prudhomme, coordonnatrice du réseau québécois des groupes écologistes, qui est un des groupes qui va participer en fin de semaine au sommet contre la guerre et la militarisation. Alors, ça va avoir lieu à l'UQAM vendredi, samedi et dimanche. Vendredi soir, c'est la soirée d'ouverture avec une conférence sur le titre l'impérialisme humanitaire. Ça va être à 19h30 au pavillon Sherbrooke. Également, il va y avoir des ateliers toute la journée de samedi. Il va y avoir 6 types d'ateliers différents. Je vous les nommerai pas toutes. Il y a la programmation, puis on va en parler dans l'entrevue et une des activités plus de plénière et de 5 à 7. Alors, toute la programmation sur le site web de échecalaguerre.org, et on continue tout de suite avec l'entrevue avec Maude Prudhomme. Nous sommes avec Maude Prudhomme du Réseau québécois des groupes écologistes. Bonjour Maude.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce sommet?
Le sommet en général, c'est une initiative un peu pour approfondir, je pense, les différents argumentaires, puis faire en sorte d'élargir la base de soutien puis de la solidifier contre la guerre et le militarisme. La façon de faire ça, ça a été vraiment d'aller chercher des gens de différents milieux pour enrichir les approches ou les lentilles d'analyse, si on veut, sur les conflits armés. On pense par exemple à Sylvie Pacro qui va parler dans l'ouverture, qui dans le fond, elle est une spécialiste, entre autres, au niveau du droit à de l'eau potable au niveau international. Il va sûrement avoir une gymnastique intellectuelle intéressante pour nous l'amener sur les sujets de la guerre, quoique c'est pas, même intuitivement, on y arrive, mais bref, de l'expliciter un peu mieux. Ça sera sûrement accompli. Il y a différents, c'est ça, d'autres organismes qui ont été approchés. Le réseau québécois, lui, évidemment, lui a demandé de parler d'environnement. N'est-il pas? En tant que réseau québécois des groupes écologistes, l'angle qu'on a choisi de prendre, on s'est associé là-dedans au centre Marie-Gérin Lajoie, qui aussi travaillait sur cette question-là un peu. Il y aurait pu avoir plusieurs angles qu'on a à choisir pour cette question-là. Nous, on a choisi trois aspects principaux des relations qu'on a considérés des relations entre les conditions environnementales et les conflits guerriers. Je continue? Ouais.
Ben oui, tout à fait.
Les trois angles qu'on a choisis, c'est l'usage du contrôle des ressources naturelles comme arme de guerre, avec l'exemple de la Palestine, par exemple, où, parce que tous les conflits ont différentes dimensions des relations environnementales, mais il y en a qui sont plus caractéristiques de certains conflits. Donc, on identifie qu'en Palestine, le contrôle des ressources, que ce soit à l'eau, que ce soit au sol, est utilisé comme arme de guerre comme telle, alors que en Colombie, d'ailleurs, on a invité le projet d'accompagnement Solidarité Colombie pour expliquer les enjeux à cet égard-là. C'est vraiment les ressources qui sont au centre des enjeux militaires. C'est vraiment le nerf de la guerre au niveau des ressources naturelles. Alors qu'en Irak, oui, il y a certes une relation aux ressources naturelles, mais ce qu'on va étudier, c'est plutôt les retombées sur la qualité de l'environnement habitable, la possibilité d'habiter les écosystèmes qui ont été affectés par des conflits guerriers, même si officiellement et entre gros guillemets, les conflits sont finis.
Puis donc, c'est des ateliers qui vont avoir lieu samedi. Donc samedi, avec une formule intéressante pour ne pas en rater. Il y a 6 propositions d'ateliers. Vous pourrez aller voir le détail sur le site web. Puis c'est de 13h à 14h30 et de 15h à 16h30. Est-ce que le RQGE sera aussi présent dans le reste de la fin de semaine?
On y sera tout le moins le vendredi, mais le RQG comme tel, sa part, c'est vraiment d'organiser un atelier. Les mandats ont été donnés à différents organismes de prendre en charge des ateliers. Moi, ce que je trouve très intéressant de la formule, en fait, des ateliers, c'est le fait que les ateliers sont donnés 2 fois. Il n'y a donc pas à choisir un seul atelier, mais on peut aller assister à 2 ateliers pour sortir un peu des fois d'aller seulement à l'atelier où on est dans notre zone la plus connue, puis d'ouvrir la porte à un peu d'exploration. C'est dans la formule là, du samedi après-midi.
Puis alors, est-ce que ce type de partenariat Échec à la guerre et RQGE se reproduit dans d'autres campagnes et coalitions à plus long terme, ou est-ce que c'est le début de collaborations futures?
Bien, le RQGE a endossé des revendications d'Échec à la guerre depuis un certain temps. Par contre, pour faire un travail réel, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est d'articuler des analyses environnementales sous une perspective des droits humains qui vont à ce moment-là se lier aux analyses antimilitaristes ou aux analyses sur les conflits armés en général, vraiment de faire en sorte que les groupes en environnement, les groupes écologistes s'approprient ces analyses-là et les articulent même dans leur lutte spécifique, qu'ils soient conscients de ces éléments de contexte-là. C'est plus à ce niveau-là qu'on voit le rôle du réseau, puisque le réseau avant tout est un outil pour les groupes écologistes.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Alors, pour avoir plus d'informations sur les autres campagnes du RQGE en général, rqge.qc.ca, si je ne me trompe pas.
Bien sûr. Et vous pouvez aussi vous abonner au Bref, le bulletin qui est produit aux 6 ou aux 7 semaines, qui informe de façon thématique sur l'actualité environnementale au Québec et un peu ailleurs.
Et pour vous inscrire au sommet de la fin de semaine, aux ateliers, donc échecalaguerre.org, vous y trouverez la programmation. Et également, donc, on rappelle un petit peu l'horaire, vendredi soir à l'UQAM à 19h30, une conférence d'ouverture, l'impérialisme humanitaire, c'est son titre. Samedi à 10h, on commence avec une table ronde jusqu'à midi. Ensuite, les ateliers, donc avec 6 ateliers, mais donnés 2 fois pour donner le choix. Une plénière en fin de journée, un 5 à 7 pour socialiser à la fin de la journée et dimanche, une conférence de presse. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Que de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada y de dónde son, que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada. Embargo, existence, expérience, résistance.
Nous sommes en compagnie d'un sympathique membre du collectif Les Apatrides Anonymes, dont nous tairons l'identité pour faire honneur au nom du collectif. Les Apatrides Anonymes qui organisent actuellement un gala pour clôturer la campagne de vote populaire Hostides Racistes. Alors, au commencement, qu'est-ce que la campagne Les Hostides Racistes?
Ben, c'est une campagne qu'on mène depuis environ un an. On a fait des beaux dépliants avec une description de 10 institutions et personnes qu'on qualifie de racistes au Québec et au Canada, qui avaient été sélectionnées par un appel à différents groupes qui travaillent sur les questions d'immigration, de racistes, qui nous ont suggéré des noms. On a gardé les 10 plus populaires dans ces groupes-là pour faire des catégories. Et les gens pouvaient voter par Internet pour faire leur palmarès, leur top 10 de 1 à 10. Et ces 10-là vont être dévoilés lors d'un gala jeudi. Et je dirais qu'il y a quelques centaines de personnes qui ont voté quand même. C'est un vote assez démocratique quand même, assez direct comme vote. Et après le gala, on fera aussi avec les 3 ou 5 plus racistes de chez nous, sûrement des actions par rapport à eux, sûrement une campagne aussi éventuellement.
Sans nous dévoiler les gagnants, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les 10 nominations?
Oui, ben les 10 nominations, les gens sont peut-être pas très surpris. Il y a évidemment les conservateurs qui sont très présents. Au premier chef, Stephen Harper. Il y a aussi Jason Kenney et Lawrence Cannon. Il y a évidemment la police de Montréal et la Fraternité. Il y a aussi l'Agence des services frontaliers. Il y a le ministère des Affaires indiennes. Il y a les radios poubelles. Il y a Richard Martineau et le Journal de Montréal ensemble. Et la GRC et le CRS conjointement pour leur beau travail. Donc, le vote a été assez serré. Les 5 positions sont très chaudes, mais la première position est vraiment détachée du reste. Donc, à vous de deviner.
Et pourquoi la nécessité de faire une telle campagne?
Ben, nous, dans notre précédente campagne, on a toujours allié l'humour, le sarcasme avec le politique, avec la dénonciation, puis être assez direct dans les dénonciations. Puis là, on s'est dit, ben, c'est sûr que c'est pas le sujet le plus original. Ça a déjà été fait d'identifier des gens, des ciblés. Il y a eu la campagne assez grosseur du comité des sans-emploi il y a quelques années. On a pris un peu le même thème. Et on s'est dit, ben, on va faire quelque chose qui va interpeller les gens, qui va être clair. Et aussi, après, on va avoir du matériel pour pouvoir faire d'autres actions.
Est-ce que tu as un préféré, toi, parmi les nominés?
Je dirais que mon cœur balance entre Richard Martineau, Stephen Harper et Jason Kenney, quand même. Vu qu'on travaille beaucoup en immigration, c'est vraiment un vrai raciste imbécile, ouais.
Là, tu es conscient que tu influences le vote?
Le vote est terminé, par exemple. Donc, il est terminé le 20 octobre, parce qu'il fallait comme tout faire le setup pour le gala, inviter les gens qu'on venait présenter. Fait que le vote est terminé pour l'instant, donc c'est seulement mes préférences.
Puis à quoi on peut s'attendre pendant la soirée du gala?
Ben, c'est jeudi prochain, le 18 novembre. Ça va être une soirée assez haute en couleur avec plein de monde qui vient de présenter les gagnants. On a invité les gagnants eux-mêmes, mais ils ont refusé de venir.
Surprenant.
Ben oui, ils ne voulaient pas s'associer, ça a l'air, à une campagne assez raciste et vulgaire. En anglais, c'est racist come back. Bon, il n'y avait pas beaucoup ça. Même leur attaché de presse n'ont pas voulu venir non plus. Mais on va remettre des plaques, des médailles, des trophées, du beau matériel quand même fait de façon artisanale. Mais donc, on va avoir, c'est ça, des gens qui vont venir présenter. Il va y avoir la fanfare anarchiste qui va venir faire des thèmes, qui va faire un spectacle après aussi. Il va y avoir des costumes, de l'animation, un quiz aussi pour le meilleur groupe antiraciste de Montréal. Il y a deux groupes qui s'affrontent, deux groupes militants à Montréal. Et avec des questions, on va voir c'est qui les vrais antiracistes à Montréal. Donc, plein de choses, tapis rouge, décors, étincelles et paillettes.
Alors, tu nous résumes l'invitation où, quand?
Oui, c'est jeudi prochain, le 18 novembre. Les portes ouvrent à 19h30, 20h. Ça commence vers 21h. Et c'est au Catacombe, qui est une coop de travail gérée par des femmes, qui est une place punk metal en général, mais qui organise toutes sortes d'événements. Et c'est au coin des rues Saint-Laurent et Ontario.
Vos émissions préférées sont de retour à Radio Centre-Ville. Au Bel Âge traite des préoccupations des aînés les mardis de 10h à 11h. Tout de suite après, de 11h à 11h30, Je vote pour la science vous informe de l'actualité scientifique. Portrait danse est de retour les jeudis de 13h à 13h30. Découvrez nos nouvelles émissions. En bas, à gauche, fait le tour de l'actualité internationale les mardis de 9h à 10h. Bouffée d'air frais vous parle d'horticulture les mardis de 13h à 14h. Voix francophone, les vendredis de 11h à 11h30, jette un coup d'œil sur l'actualité et la musique francophone. Écoutez-nous au 102,3 FM ou sur notre site radiocentreville.com.
En ondes depuis 1991, Folie 12 vous informe sur les différentes facettes du monde de la santé mentale. Soyez des nôtres chaque jeudi matin de 10h à 11h sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal. Attention, cette émission peut provoquer la dépendance. Nous préférons vous en avertir.
Optométriste sans frontières lance une collecte de lunettes usagées pour les enfants de Tanzanie. En février 2011, des optométristes bénévoles se rendront dans une école orphelinat de Tanzanie dans le but d'offrir des lunettes de prescription à plus de 600 enfants. Jusqu'au début janvier, apportez vos lunettes à Radio Centre-Ville. Besoin urgent de lunettes d'enfants. Venez porter vos lunettes à Radio Centre-Ville, 5212 Saint-Laurent, coin Fermente. Pour de l'information sur l'organisme, visitez optométristesansfrontières.ca.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
De retour à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Et pour continuer notre programmation, nous allons être rejoints par téléphone par Antoine Casgrain, présentement au Chili, qui a recommencé à nous faire des chroniques d'actualité sur l'Amérique latine. Et on va parler aujourd'hui d'une annonce qui était faite au début du mois de novembre par le Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, donc sur la nouvelle politique économique de Cuba, qui est un peu ce qui est dans l'air depuis plusieurs années, en fait, bon, d'où le monde en parle. Et alors donc, merci d'être avec nous, Antoine, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais, pour le monde qui ne connaisse pas nécessairement le contexte actuel, nous présenter un petit peu cette nouvelle politique économique?
Oui, bien, pour commencer, Cuba, pour l'Amérique du Sud, c'est vraiment encore aujourd'hui un modèle, et peut-être aussi pour le monde entier, parce que c'est un des pays qui persiste aujourd'hui à avoir des relations non-capitalisme dans son économie nationale. Et puis, et c'est aussi important parce que je crois que plusieurs personnes de Montréal connaissent Cuba, sont déjà allées à Cuba, ont voyagé pour la facilité que le tourisme est devenu là, pour les Québécois à Cuba. Et tout le monde a un peu son idée sur Cuba, tout le monde a déjà vu un petit peu la cité cubaine. Et puis, et tout le monde s'attend à ce que... tôt ou tard, ce régime-là tombe. Et on annonce sa mort depuis tellement longtemps maintenant que quand Raúl Castro annonce au début du mois de novembre un projet de réforme qui s'appelle Los Nuevos Lineamientos, hein, les nouvelles lignes d'action du gouvernement cubain, évidemment, ça cause beaucoup d'interrogations. Et les grandes lignes d'action qui ont été proposées par le gouvernement, c'est la plus spectaculaire, c'est ils vont congédier le congédiement de 500 000 personnes qui travaillent pour l'État. Évidemment, quand on parle de travailleurs de l'État, ça regroupe à peu près tous les secteurs de l'économie à Cuba, hein, pas juste les services sociaux dont on est habitué d'avoir, mais également beaucoup de personnes dans les entreprises de la production. Mais également, on veut introduire une économie beaucoup plus basée sur les salaires et moins sur les gratuités, et baisser la sécurité sociale, notamment pour faire en sorte qu'il y ait de moins de personnes qui vivent supposément dans la sécurité sociale ou d'emplois qui sont... disons, faux ou qui sont payés par l'État pour ne pas faire grand-chose. On veut également soutenir l'agriculture familiale et surtout l'agriculture à son propre compte. Permettre aux gens de pouvoir faire des petites entreprises, des petits commerces, etc. Et évidemment relancer le tourisme qui est la bouée de sauvetage en ce moment pour Cuba. Donc beaucoup de réformes qui laissent perplexe autant d'un côté sous plusieurs angles, disons.
Puis est-ce qu'on voit dans cette annonce finalement la réalisation là, de la catastrophe annoncée là, de la fin justement d'un modèle économique, ou est-ce que certains tentent d'y voir une suite de transition là, comme assouplir certaines règles vu qu'il y a eu des changements à l'économie qui permettent certains assouplissements, ou est-ce que c'est vraiment un abandon de certaines politiques?
Pour le régime cubain qui est confronté vraiment à l'inefficacité et la faible productivité de son économie. C'est un petit peu la dernière chance pour la classe des bureaucrates, vieux bureaucrates encrastés à Cuba, pour essayer de remettre le pays sur une meilleure roue, d'une meilleure condition, une meilleure possibilité économique. Mais comme on voit depuis 2006, le changement qui était fait quand Fidel Castro est parti pour des causes de maladie, était remplacé par son frère Raúl Castro, on voit que c'est encore vraiment la même vieille garde qui se maintient au pouvoir et qui veut garder solidement les rênes sur l'économie. Et pour la majorité des Cubains, si vous êtes allé à Cuba, vous savez que déjà, il y a beaucoup de gens qui font leurs petits négoces, leurs petites affaires, mais beaucoup cachés. Est-ce qu'ils vont souffler ces personnes-là? Je pense que il faudra voir, parce que souvent le gouvernement cubain dit qu'il permet une certaine autonomie aux gens de pouvoir organiser leur vie, mais après ça, soit il leur demande des impôts qui sont insensés à payer pour des petits commerces familiaux, ou il les enterre de tellement d'exigences bureaucratiques que finalement il finit par décourager et faire retourner les gens sur le marché noir. Donc, est-ce vraiment une ouverture? Ça reste à voir et il va falloir voir comment c'est appliqué. Mais on annonce déjà aussi une forte propagande, une forte mobilisation de la population vers l'organisation d'un congrès du Parti communiste cubain en avril prochain, qui pourrait faire en sorte de faire une consultation, mais évidemment, c'est ça qui serait mieux, c'est que réellement il y ait une consultation de personnes qui sont les mieux placées pour que les gens se sentent prêts de leur vie, de leur travail, de leurs conditions de vie. C'est ce qu'ils ne se sentent pas du tout à Cuba. Ils sentent que tout est gouverné par une classe, un parti qui ne leur demande pas leur avis. Et pour ce qui est aussi, ce qui fait en sorte que le peuple cubain est finalement très souvent désorganisé, fragmenté et n'est pas organisé de manière autonome, qui pourrait faire en sorte de défendre certains des acquis qui sont très populaires à Cuba. Donc, on parle évidemment de l'éducation, du système d'éducation de qualité, de la santé gratuite et un des meilleurs systèmes de santé en Amérique du Sud, même si Cuba est, au niveau économique, un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il a un système de santé le meilleur qui garantit à tout le monde, tous les citoyens et citoyennes, un accès à des soins égaux. Mais est-ce que cet État-là va pouvoir se désengraisser et augmenter sa productivité? La seule manière, justement, ce serait de permettre des contre-leviers, permettre d'organisation des travailleurs et travailleuses pour qu'ils puissent organiser et gérer eux-mêmes les services ou la production dans les unités d'agriculture ou de petites productions manufacturières, qui les permettent d'avoir un contre-levier avec des organisations propres, syndicales, qui pourraient faire pression aux gestionnaires qui sont nommés par le parti.
Est-ce qu'on pourrait voir les traces, les commencements d'une transition vers une économie capitaliste comme on a pu voir en URSS avec justement l'élite du parti qui transforme les politiques économiques à son avantage plutôt donc en promettant la démocratie ou plus de participation comme et le capitalisme comme moindre mal pour accepter ce plus de démocratie? Est-ce qu'on voit ces éléments-là se poindre à l'horizon? J'avais aussi entendu parler qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de publicité à Cuba faisant la promotion du modèle chinois ou de ce genre de choses-là. Est-ce que tu as vu un peu les analyses là-dessus?
Moi, je crois que le modèle chinois est un exemple à Cuba beaucoup mieux, je dirais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la masse critique parce que, bon, la population chinoise fait en sorte que le développement de la production capitaliste, c'est un marché de travailleurs qui est beaucoup plus présent, qui fait en sorte de... Mais par rapport à Cuba, je pense que la transition question s'oriente, évidemment. Raúl Castro veut s'inspire beaucoup, il l'a souvent dit, il veut amener Cuba plus son modèle chinois, ce qui donne beaucoup d'interrogations et de scepticisme parce que, bon, finalement, le modèle chinois, c'est l'imposition d'une dictature pour maintenir les salaires bas, maintenir la population dans un état de pauvreté, de peu de pouvoir sur leurs conditions de travail qui fait en sorte de pouvoir bénéficier à une classe d'entreprise transnationale qui vient produire toute la production manufacturière globalisée en Chine. Au Cuba, il n'y a pas ce marché d'emploi-là, mais on peut le voir dans le tourisme, par exemple. On veut encore augmenter les investissements dans le tourisme, augmenter les investissements internationaux. Et ça, ce que ça veut dire, évidemment, c'est augmenter les entreprises, les hôtels, les entreprises de voyage, qui fait en sorte de profiter d'une main-d'œuvre à bon marché. Et d'un côté, justement, les bureaucrates ou le Parti communiste parlent d'une société socialiste, d'une société d'égalité, mais de l'autre côté, le tourisme même, il l'encourage et profite souvent à des travailleurs qui gagnent beaucoup plus que des salaires de médecins ou donc il y a comme une pyramide inversée à Cuba, ça tout le monde le sait. C'est comme un double discours parce que le capitalisme concret qu'on insère avec l'arrivée de ces économies-là, en donnant des plages à des entreprises hôtelières, évidemment qui sont étatiques, mais il reste que il y a beaucoup de territoires à Cuba qui vont être occupés par les étrangers. Donc c'est comme une espèce de processus de dénationalisation qui est loin d'être le socialisme. Et ça a beaucoup d'impact sur les mœurs. On parle d'augmentation de la prostitution. Si vous êtes à Cuba, tout le monde sait que la prostitution est facile d'accès et qu'elle est partout, même si officiellement, le régime, c'est vraiment pas dans les mœurs socialistes que promouvoit le régime. Il y a évidemment une tolérance, une corruption totale qui accepte ça.
Et donc, dans les choses à suivre dans les prochains mois, cette annonce de nouvelle politique va donc être appliquée avant la perspective d'un congrès du parti qui pourrait changer les choses. Si quelqu'un veut s'intéresser au sujet, pour toi, c'est quoi les prochaines choses à avoir l'œil?
Évidemment, à Cuba, il n'y a pas d'espace de débat. C'est ce qui manque et c'est ce qu'on aurait besoin pour que réellement les acquis de la révolution, les acquis qui ont été gagnés de hauts sacrifices, de haut travail des premières générations révolutionnaires, aujourd'hui, ben, les nouvelles générations, ils ne font pas confiance, ils font beaucoup de blagues sur ça. Il ne croit pas, il y a un essoufflement et il y a vraiment un découragement, une démotivation totale. Et la seule manière de permettre, ce serait justement, comme tu dis, permettre des espaces de débat que les congrès du Parti communiste ou des congrès de chaque branche d'organisation, des partis de jeunesse, des syndicats, puissent avoir vraiment d'espace de débat où les gens puissent participer. Que réellement il peut y avoir des réformes économiques, mais ça semble pas vers là que ça va à Cuba. Et on parle même de faire des mesures très impopulaires comme éliminer la libreta. La libreta, c'est le fameux cahier ou le carnet avec lequel ils vont chercher le Cubain peut aller chercher pour sa famille des denrées alimentaires à un faible prix. Évidemment, on parle de réduire les pensions des personnes âgées. Évidemment, on dit toujours qu'on va faire ça de manière à focaliser pour que les personnes réellement, qui en ont réellement besoin, puissent garder les bénéfices sociaux. Mais évidemment, c'est des mesures impopulaires qui risquent de saper les propres bases d'un appui populaire à des mesures, disons, non capitalistes et encourager les gens finalement à, bon, mais si l'État ne donne plus des services subventionnés, à quoi ça me sert le socialisme? Alors, je préfère donc aller réellement vers une économie ouvertement capitaliste. Mais c'est là-dedans que je crois que vers ça qu'on s'en va à Cuba, mais avec les rênes bien serrées pour que justement les classes de bureaucrates puissent garder les principaux postes les principales opportunités économiques qui vont s'ouvrir si éventuellement il y a des réformes. Donc, c'est pas encore gagné, c'est pas encore fait. Je crois que le poids des années, le poids de la conscience révolutionnaire, le poids des acquis sociaux est beaucoup plus fort qu'il pouvait l'être en Union soviétique. C'est pour ça que le régime castriste reste à Cuba, mais évidemment, il y a beaucoup de mauvais signes et de portes qui s'ouvrent là, qui pourraient faire en sorte de faire un passage vers une économie là, de type capitaliste en maintenant le mauvais côté du régime qui est la dictature.
Mais merci beaucoup pour toutes ces informations.
Donc, ça fait plaisir.
Alors, on se retrouve d'ici quelques semaines, peut-être même en direct au Québec, pour avoir d'autres informations sur d'autres dossiers d'actualité de l'Amérique latine. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Vous écoutez En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Écoutiez 11 septembre, une chanson de Brixton Cats, un groupe français. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, et c'est la suite et fin de En bas à gauche. Il nous reste quelques minutes. C'est l'heure de sortir vos agendas pour l'anti-hebdo, l'agenda de ceux et celles qui ne veulent pas regarder la TV. Alors aujourd'hui, à 11h, alors dépêchez-vous, là, on vous l'a mis là, parce que c'était bien important puis qu'il y a des, suites. C'est le lancement de d'une tournée provinciale du Code du logement. Alors une action proposée par le regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec qui organise la première sortie publique mensuelle du relais du Code du logement provincial qui sillonnera le Québec pour exiger une réglementation uniforme en matière d'entretien et de salubrité des logements au Québec. Alors la première action est à 11h ce matin en face de l'Union des municipalités du Québec au 680 rue Sherbrooke-Ouest au métro McGill. Mais si vous voulez avoir les rendez-vous pour aller voir le Code à Laval, à Saint-Jérôme, à Gatineau ou à Thetford Mines, vous allez sur internet RCLALQ, ça c'est pour regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec, .qc.ca, et vous aurez tous les détails. Cette semaine, c'est la semaine contre l'impunité 2010 organisée par la délégation de droit et démocratie à l'UQAM. Il y a beaucoup d'événements pour vous en citer. Quelques-uns. Disparition forcée au Guatemala de 18h à 19h30 à l'UQAM. Ça va être ce soir. Alors, on peut rentrer par le 1230 rue Saint-Denis pour se rendre à cet événement. Il y aura une présentation de l'affaire Florencio Chitainec contre Guatemala. Une table ronde suivie d'une discussion en présence de Annie Pelletier, présidente du conseil d'administration du projet accompagnement Québec-Guatemala. Plus d'informations très probablement sur le site du PAQG. PAQG.qc.ca. C'est une journée occupée à l'UQAM puisque vous aurez aussi ce soir l'activité créer et militer l'autonomie collective en trois étapes faciles. Comment créer des alternatives au capitalisme? Rien de moins, alors ne manquez pas ça. Ça va être au Café Aquin de 6h à 20h30. En 2h30, vous allez vous sentir outillé. Le Café Aquin se trouve au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin. C'est là que c'est tout colorié, toutes les couleurs, puis que c'est bien joli. On rentre par les coins de rue Sainte-Catherine et Saint-Denis. Alors c'est le dernier atelier de la session du GRIP, le groupe de recherche d'intérêt public de l'UQAM, qui propose ce café discussion avec une discussion avec sur la critique du capitalisme avec Alain Savard du comité anticapitalisme, des présentations de projets alternatifs. Les membres du CRAPO Jardin Collectif seront présents. Marco Silvestro sera là pour le centre social autogéré et il y aura une période de discussion sur les actions à venir. Alors plus d'informations aussi sur le site du GRIP, grip.qc.ca, sûrement GRIPCAM. Mercredi 17 novembre, répression et solidarité, réflexion afin de solidifier nos luttes anarchistes. Ah non, je t'ai volé ta réplique, Nico. Continue ça.
Ben, donc, exactement, on va avoir cet événement qui va être à 18h30 au 2365 rue de Grand Tronc, métro Charlevoix, c'est dans Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est un événement conférencier qui sera présenté, où sera présenté le cas de John Graham, un prisonnier politique autochtone. Puis, on va exposer une analyse et une vue d'ensemble de la répression par l'État des luttes sociales en général. Fait que c'est un événement à pas manquer qui va être le 17 novembre, je répète, à 18h30 au 2365 rue Grand Tronc. Grand Tronc, métro Charlevoix. Et ensuite, la même soirée, on a soirée de projection engagée avec vidéo distorsion, avec un focus sur la Palestine cette fois-ci. Alors, ça va être à 20h au bar L'Alysée. On va avoir plusieurs vidéos engagées sur plusieurs régions du monde. Et donc, c'est au 900 rue Ontario-Est, métro Berry-UQAM, contribution volontaire, $5 suggéré. Alors, un autre événement à ne pas manquer et qui se répète à tous les trois mois.
Et la même soirée, c'est une soirée occupée. Il y aura la projection du documentaire En transition 1.0 de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Donc c'est une projection de film qui a lieu mercredi soir à 19h au dépôt alimentaire NDG 2121 avenue Oxford. Le dépôt alimentaire NDG et la Guilde de permaculture de Montréal vous invitent à la projection gratuite de ce documentaire qui sera présenté en anglais avec sous-titres français. C'est le premier film détaillé sur le mouvement de transition, donc qui discute des communautés à travers le monde qui répondent aux pics pétroliers et le changement climatique avec créativité, imagination et humour. Alors un film qui devrait donner espoir et envie. Conférence de George Galloway, toujours mercredi, là, je vous avoue, ça va être difficile de se décider mercredi. Palestine libre, Afghanistan libre, liberté d'expression. Alors George Galloway est l'ex-député britannique qui entame une tournée dans 10 villes canadiennes. Il sera à Montréal Montréal, donc mercredi soir. Rappelons-nous que le 27 septembre dernier, la Cour fédérale a blâmé le gouvernement conservateur pour avoir empêché l'ancien député britannique de fouler le sol canadien. Le juge Richard Mosley avait alors affirmé que les efforts pour garder M. Galloway hors du pays avaient plus à voir avec une antipathie envers ses opinions politiques qu'avec une réelle inquiétude liée à la sécurité, puisqu'on se rappellera qu'il avait été empêché de venir donner des conférences au Canada à cause de ses positions anti-guerre en tant que député. Également, donc ça va être à 18h30, excusez-moi, à la salle Marie-Gérin-Lajoie, la grande salle quand on rentre par le métro à l'UQAM, c'est au pavillon Judith Jasmin, par exemple, c'est un peu cher, un billet à 20$, 10$ pour revenus modestes. Vous pouvez voir l'horaire de la tournée au www.defendfreespeech.ca. Jeudi 18 novembre, bon ça y est, une deuxième journée, comprendre les conséquences du budget Bachand, soirée discussion sur la tarification des services publics. On vous rappelle que le 23 novembre prochain, il y aura une manifestation en opposition au budget, et donc il y a un 5 à 7 qui est proposé jeudi soir pour discuter avec des chercheurs de l'IRIS sur les recherches qui ont été faites sur pourquoi c'est donc ben une mauvaise idée de couper les choses qui font que les gens vivent mieux, tout ça pour donner l'argent aux riches, pour vous faire un résumé un peu rapide. Plus d'informations à iris-recherche.qc.ca. Toujours dans le cadre de la semaine contre l'impunité, il y a une autre conférence qui s'appelle « Violence sexuelle et conflits armés » de 18h à 21h à l'UQAM aussi. Ça va être une projection sur « Le déshonneur des casques bleus », un film de Raymond de Provencher fait en 2007. Table ronde suivie d'une discussion en présence de Anne Saris, professeure et chercheure au département des sciences juridiques de l'UQAM, Diane Matt, concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, et Rita Acosta, mouvement contre le viol et l'inceste. Ça va être donc jeudi soir de 6 à 9 au pavillon DS 1950 à l'UQAM. On vous a déjà annoncé le gala des hosties de racistes, ça n'a pas manqué, jeudi soir aussi aux catacombes. Et dernier événement, vendredi 19 novembre, pour clôturer la semaine, dans le cadre des rendez-vous de la Maison Normand Béthune, les prisonnières et prisonniers politiques de guerre et de guerre aux États-Unis. Ça va être à la Maison Normand Béthune, au 19-18 rue Frontenac, à 19h vendredi soir. Toutes les informations maisonnormandbéthune.ca. Donc également, il y a aussi un autre événement dans la journée vendredi de 11h à 12h30, exportation d'amiante, le Canada au banc des accusés, projection du reportage Canada's Ugly Secret de Melissa Fung. Table ronde suivie d'une discussion en présence de Thomas McLean, député fédéral d'Outremont, qui viendra faire son tour à l'UQAM. On vous offre le petit déjeuner et le serrage de main de député, je peux vous le garantir. Également, on vous le rappelle, donc le sommet en fin de semaine populaire contre la guerre et le militarisme. Alors, toutes les informations sur le site web de Échec à la guerre. Alors, c'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche. On vous retrouve sur Internet, sur le site de Radio Centreville, www.radiocentreville.com, où on vous retrouve sur le blog de En bas à gauche, enbasagauche.wordpress.com, où vous pouvez retrouver toutes les informations que vous avez entendues dans l'émission et même reprendre et réemprunter pour vos émissions ou vos activités audio les contenus des émissions. On est ravis que ça serve à d'autres. Et vous pouvez, Maud qui s'occupe du blog, a ben hâte qu'on reçoive nos premiers commentaires. Et surtout, n'hésitez pas, en bas à gauche à riseup.net. Donc, c'est notre email. Alors, si vous avez des commentaires, des sujets à nous proposer, envie de faire des collaborations, surtout, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Également, si vous voulez retrouver les informations de l'anti-hebdo, vous pouvez le faire sur différents sites web, agendamilitant.info, cmac.net. Alors, on vous laisse avec la suite de la programmation à Radio Centreville. On vous laisse avec Le Bel Âge et tout le reste des programmes de la journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente suite de journée.
Travailler en français, c'est créer de l'emploi.
C'est payant. C'est un droit.
Moi, je travaille en français.
Je travaille en français.
Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'impératif français.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic, chic, choc. Nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis, camarades, rendez-vous cassé.
Le Théâtre Centaure est heureux de vous présenter en première mondiale Don Quixote, la nouvelle adaptation du roman de Miguel de Cervantes. Don Quixote, un gentilhomme provincial à la retraite obsédé par les anciens récits de chevalerie, s'engage dans une quête visant à défendre les plus démunis et à combattre les vilains, aux côtés de son fidèle écuyer Sancho Panza. Présenté jusqu'au 5 décembre, billets disponibles au 514-288-3161 ou au www.centaurtheatre.com. Commanditaire de la saison Hydro-Québec.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde.